comment les sociétés développées ont pu finalement déléguer au marché la gestion de l'essentiel de leurs pratiques symboliques. Alors, j'ai donné déjà une forme de réponse dans la situation qui nous est rappelée par Horkheimer et Adorno, c'est-à-dire les Lumières, l'Aufklärung, qui précisément relègue le symbolique. L'Aufklärung, comme le disent Horkheimer et Adorno, c'est la volonté d'évacuer l'irrationnel, la magie. Donc la dimension symbolique n'est plus au premier plan, elle va être reléguée, en particulier dans les pratiques privées. Et c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles on peut comprendre le peu d'intérêt ou l'absence de prise en compte à un échelon institutionnel de la dimension culturelle. Ça, c'est le premier constat qui est suivi par un ensemble de paradoxes dans lesquels sont prises les pratiques culturelles, donc depuis la fondation du sujet politique et économique par les Lumières. Je dirais, pour résumer ces paradoxes, que nous vivons dans le déni de la dimension culturelle des industries du divertissement et dans le refus des dimensions symboliques du monde occidental. On a l'impression que notre système de la culture, depuis l'Aufklärung, fonctionne un petit peu comme la Traumdeutung de Freud, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui définit les récits comme des objets un peu incertains, comme l'accomplissement inconscient d'un désir, ce qui est la définition du rêve pour Freud, et surtout l'idée finalement que, je le cite, le rêve a un sens, mais un sens caché. Et donc c'est un petit peu la situation dans laquelle nous sommes face aux objets culturels qui se présentent comme des formes à interpréter. Alors, l'idée que je voudrais essayer de vous exposer ce matin, c'est que cette série de paradoxes découle, à mon avis, des principes même de l'installation des industries culturelles, qui est, dans mon approche, un phénomène historique, quelque chose qui est lié de façon précise à, disons, une mutation des modèles culturels. C'est à partir de ce moment-là que les conditions intellectuelles, politiques et économiques sont bouleversées de telle sorte qu'elles permettent l'installation d'un nouveau système. Donc, alors, la question à laquelle je n'ai pas répondu hier, je la gardais pour ce matin, c'est qu'est-ce qu'il y a d'industriel dans les industries culturelles ? Et en fait, ce n'est pas facile du tout de répondre à cette question. C'est une question qui est posée depuis longtemps dans l'historiographie de l'industrie, et en particulier, c'est une question, il y a un beau livre de Jean-Pierre Rioux sur la révolution industrielle, qui pose bien ces questions notionnelles qui sont importantes et très compliquées, parce que voilà, quel est le critère, à partir de quel moment on peut légitimement dire qu'on rentre dans un système industriel, qu'on passe de la manufacture à l'industrie, de la production à la production en grande série. Alors, à l'évidence, le consensus global se fait autour de l'idée de la sérialité de la production. C'est d'ailleurs la même idée que vous retrouvez exactement chez Benjamin, dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, qui précisément, et son titre l'indique, reprend ce critère, pas seulement au sens de la reproduction photographique, mais au sens de la production industrielle, c'est-à-dire, c'est, Walter Benjamin nous l'explique, le film est cette nouvelle œuvre d'art qui est fabriquée comme un produit industriel. C'est-à-dire que comme une automobile, le film n'a pas d'original, ce qui fait une grosse différence avec l'œuvre d'art, et il est produit en série pour des publics importants. Et il est produit de façon technique. Donc, c'est ce critère de la production en plus ou moins grande série est, grosso modo, le critère qui a été retenu pour expliquer ou définir la dimension industrielle. Évidemment, quand on... Je viens en fait de le dire, plus ou moins grande série. Donc, tout le problème, c'est qu'en fait, on n'a toujours rien défini parce que quel est le seuil ? C'est 5 000 ? C'est 10 000 ? C'est 20 000 ? Personne, évidemment, n'est capable de répondre à cette question. Et on voit bien, je vous renvoie aux chiffres que nous avait donné hier Marie-Ève. Donc, voilà, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une progression. La courbe monte et on passe de 10 000 à 50 000 à 100 000. Bon. Donc, en fait, l'augmentation de la production, elle est interprétée à partir d'une dynamique qui est une dynamique de progression. Ça, c'est déjà une dimension plus intéressante et qui est en effet industrielle parce que, à la différence de l'artisanat, l'industrie est liée à l'idée d'un marché en croissance. L'artisanat, vous gérez un marché qui est stable. Vous avez des clients, ils vous achètent du pain le matin et ce groupe ne change pas dans le temps. En revanche, il est de la nature du projet industriel de considérer son marché comme un objet dynamique et quelque chose qui va s'étendre. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, vous comprenez bien que ce n'est pas juste un seuil en termes de chiffres absolus qu'il faut prendre en compte, mais l'idée de cette dynamique. Donc déjà là, on précise un petit peu. Mais ça, c'est un paramètre. En fait, il y a un autre paramètre. Et c'est celui-là que je voudrais maintenant vous expliquer. Ce second paramètre, qui me paraît bien plus important que le premier et qui permet de définir la dimension industrielle d'une production, où est-ce que je l'ai mis ? Ah ben je ne sais plus. J'ai oublié. Ah voilà, c'est ça. C'est l'association. En fait, là, je viens de faire un effet qui est ce que je vais décrire. Non, je viens de penser à Steve Jobs, laissez tomber. Non, mais Steve Jobs fait exactement ça. C'est-à-dire, on a eu tous les papiers là, depuis la mort de Steve Jobs pour dire non, mais ce n'était pas un inventeur, c'est un génie du marketing, oui. Il fait ses keynotes. Et ça, c'est la façon de donner envie, de créer du désir pour ces objets qui, bon. Voilà, chacun sait que tous ces Mac, ces iPhones sont des objets tout à fait quelconques. Mais voilà, il a ce génie de créer du désir. Et donc cette chose-là, voilà, vous avez lu tous les articles, cette chose-là n'est pas intéressante. Cette chose-là, elle est hors circuit. Et en tout cas, elle ne fait pas partie de la réalité culturelle. Donc je pense évidemment exactement le contraire. Et je pense que le moment de bascule historique qui est la condition de la création des industries culturelles, et d'ailleurs pas que des industries culturelles, en fait du régime industriel, c'est l'association à la production d'un dispositif parallèle spécifiquement dédié à la création du désir, si on suit mon fil psychanalytique, ou peut-être, plus précisément, parce qu'en réalité le désir est une conséquence de quelque chose d'autre qui est plus précis, un système voué à la création et à l'entretien de l'attention. Donc un système de génération de l'attention, un système de la prosécogénie. La prosécogénie étant le terme qui qualifie exactement cette idée de génération de l'attention. Alors, Rémy Besson a commencé hier à vous décrire, à travers l'exemple de Shoah, cette machine qui constitue une forme de vie parallèle de l'œuvre et qui est constituée, voilà, on le sait bien, par un ensemble d'interventions, d'entretiens, d'articles, d'affiches, voilà, ce qu'on pourrait appeler la vie culturelle seconde d'une œuvre. Et ce qui était très intéressant dans l'intervention de Rémy, c'est qu'on voyait bien qu'il était extrêmement difficile de séparer cette œuvre seconde de l'œuvre première. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, tout dans ce travail d'accompagnement et de promotion renvoie à l'œuvre et en dépend. De sorte qu'il est très difficile de percevoir sa dimension autonome, puisque l'ensemble de cette construction paraît constamment lié à ce qui lui est prétexte. Alors, pour comprendre le caractère absolument essentiel de ce mécanisme de génération de l'attention, auquel, il faut bien le dire, nous n'avons guère prêté d'attention depuis 2 siècles, ce qui en fait une sorte de système invisible. Je vais essayer de vous le décrire à partir d'un symptôme qui est devenu très courant depuis la diffusion des enregistrements de films et que peut-être vous connaissez. Mais donc je vais le décrire à partir de mon expérience. Chez moi, on a une bibliothèque entière de DVD du commerce, parce que j'achète mes DVD. Bon, c'est parce que j'ai les moyens. Mais et donc ces DVD sont pour la plupart, pour leur grande majorité, des films que nous avons vus en famille à leur sortie. Et alors, voilà, l'expérience que j'ai et que je voudrais vous faire partager, c'est celle d'être devant cette bibliothèque, devant ce meuble qui comprend des dizaines d'œuvres culturelles, typiquement un samedi soir, à un moment où l'offre télévisuelle ne correspond pas à mes critères. Et voilà, je suis devant ce meuble, cherchant quel film choisir pour l'occupation de la soirée et ne sachant pas lequel prendre. Devant moi, j'ai une foule de propositions de divertissement et le souvenir de films que nous sommes allés voir ensemble, pour la plupart dans la fièvre et la passion, dans l'excitation de la sortie du film, à un moment où le degré d'attention, le degré de prosécogénie pour cette œuvre est maximal. Et donc, cette bibliothèque de DVD, elle me montre quelque chose de très précis. Elle me montre les œuvres sans le thrill, l'excitation, la fièvre, le désir. Elle me montre l'œuvre sans la prosécogénie. Elle me montre l'œuvre débarrassée de son accompagnement, de sa vie parallèle, qui, voilà, entre-temps, a disparu. Et donc, voilà, l'expérience que j'ai, c'est qu'un film sans la somme de cet investissement libidinal, entretenu par les affiches, les critiques, les signalements, les sollicitations, le débat, le buzz, ce n'est plus grand-chose. ça devient quelque chose qui est une œuvre avec des qualités objectives dont on se souvient, mais le désir s'est comme évanoui. Et voilà, la bibliothèque de DVD est comme un cimetière de désirs morts, refroidis, d'œuvres qui ont perdu leur prosécogénie, leur poudre de fée. Je crois que c'est de cette façon que nous devons comprendre le rôle éminent de l'industrie parallèle qui s'installe au début du XIXe siècle et qui va dès lors accompagner toute la production de divertissement jusqu'à aujourd'hui, l'activité qu'on appelle habituellement la critique, qui est d'abord, au début du XIXe siècle, une critique littéraire et théâtrale, dont on peut identifier une étape symbolique avec la création du journal Le Globe en 1824, qui est un journal spécifiquement dédié à la critique et dont le prospectus de 1824 dit ceci, je cite, « La critique est devenue une spéculation d'auteur et un commerce de librairie. Chaque coterie a sa feuille. Chacun y loue son livre ou le fait louer par un secrétaire, un disciple ou un ami. » Voilà, donc, si l'édition est la première industrie culturelle, la critique est incontestablement la seconde. C'est une industrie qu'on a oubliée, mais vous comprenez bien, quand je prends l'exemple du Globe, elle a un caractère industriel, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par des organes, des journaux. C'est une forme du journalisme qui est un produit d'appel, très, très intéressant, très prosécogénique lui-même. Les premiers critiques de cette génération, ils s'appellent, on les connaît. C'est Victor Hugo, Sainte-Beuve, bien sûr, mais aussi Alexandre Dumas. Tous les grands écrivains, tous ceux que nous connaissons comme des grands écrivains, ont commencé leur carrière comme critiques, sous la forme de feuilletons, dans ces feuilles, et voilà, où ils louaient ou critiquaient les pièces de théâtre et les œuvres littéraires de leurs camarades. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la critique n'est pas juste un supplément d'âme et un élément accessoire de la production de biens culturels. Elle est un élément absolument nécessaire du commerce des biens symboliques. Pour une raison qui nous est rappelée dans tous les manuels d'économie, quand vous lisez les manuels d'économie et quand vous décrivez, que vous arrivez au chapitre économie culturelle, les économistes s'arrachent toujours les cheveux en disant « Mais ce marché ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que vous n'en avez pas besoin de ces choses-là. Un marché, c'est normalement le commerce, vous achetez les choses dont vous avez besoin. Et c'est parce que vous en avez besoin que vous les achetez. Sinon, vous ne les achetez pas. Or, tous les biens symboliques sont des choses dont on n'a pas besoin. On a besoin de s'habiller, on a besoin de manger, on a besoin d'un tas de choses, mais on n'a pas besoin de fiction, de récits et d'œuvres littéraires ou autres. Donc, la critique est, à l'évidence, à partir du moment où la production culturelle devient un marché, un complément indispensable à la création de l'attention ou du désir qui va fournir la condition de l'acquisition. Alors, que fabrique la critique sur les œuvres culturelles ? On pourrait dire, dans les termes d'aujourd'hui, qu'elle produit du buzz, et on n'aurait pas tort, c'est effectivement, grosso modo, l'idée. Mais on peut préciser ce qu'elle produit. Sur un mode très proche du journalisme, la critique étant un genre particulier du journalisme, donc on pourrait décrire exactement la même chose pour les productions journalistiques. Mais en gros, je dirais, il y a 5 opérations majeures. Premièrement, la critique événementialise l'œuvre. Elle la transforme en événement, elle la met à l'agenda. Voilà. la semaine prochaine, il y a la sortie du film de Spielberg, Le secret de la licorne. Tout le monde le sait, c'est annoncé à l'avance pour que vous puissiez, dès mercredi 26, aller voir ce film. Donc, voilà, la première fonction est une fonction typiquement journalistique, mettre à l'agenda, événementialiser. La deuxième fonction, qui est aussi une fonction journalistique et médiatique, je dirais, c'est amplifier la réception par le commentaire. Donc le commentaire, c'est une chose, le débat, c'est encore mieux. S'il y a un débat sur une œuvre, hein, vous avez un effet d'amplification plus important. Donc le débat est un commentaire au carré, c'est un commentaire amplifié. Ou bien, évidemment, la répétition, hein, et la reprise dans d'autres organes de l'opinion ou de l'analyse exprimée. Troisièmement, la critique interprète l'œuvre. Donc, elle fournit une interprétation par la discussion de ses significations. Alors ça, on pourrait dire que c'est le cœur de l'activité critique. Je n'ai pas le temps de développer sur ce point, mais voilà, disons que ça a à voir avec la discussion sur le sens de la fiction. Qu'est-ce que c'est une fiction ? On pourrait se poser la question autrement en se disant qu'est-ce qu'une fiction sans sa critique ? Qu'est-ce qu'une fiction sans le commentaire qui explique sa signification ? Pour fixer les choses, si vous voulez, prendre un exemple que vous avez peut-être en tête, la préface de Cromwell de Victor Hugo, qui est un exemple célèbre et qui est resté dans les mémoires d'une prise de position esthétique et philosophique majeure en 1827, à un moment où vous voyez, on est en plein dans la montée de la fonction critique, et la préface de Cromwell représente un assez bon exemple finalement de la critique de cette période. Si vous en souvenez, Victor Hugo nous décrit les trois âges d'un monde dans une dynamique de progrès et disons, voilà, insère une explication esthétique dans un essai de signification historique très général. Donc en gros, on dirait qu'on lit du Frodon, quoi. C'est-à-dire c'est une vision du monde. C'est une vision du monde appuyée sur une œuvre. Donc c'est ça la critique, hein. C'est construire la signification, ce qui est un art en soi, je veux dire, vous voyez bien ce que je veux dire. Quatrième fonction, elle valorise l'œuvre, et notamment, alors il y a différents systèmes de valorisation, mais là ce qui est important, c'est en particulier l'idée que on va inscrire l'œuvre dans un système de référence. Et donc, en gros, on va créer des hiérarchies pour valoriser. C'est bien simple, au fond, il faut dire, voilà, la hiérarchie, ça c'est en haut, ça c'est en bas, et l'œuvre que je décris et que je loue, elle est située ici et pas là. Donc, on peut créer des systèmes d'opposition, etc. Bon. Le but du jeu étant la valorisation. Une fonction qui est proche, mais qui découle de celle-ci, c'est la fonction de légitimation. Donc la critique événementialise, amplifie, interprète, valorise et légitime l'œuvre. La fonction de légitimation s'installant à peu près par les mêmes moyens que la fonction de valorisation, hein, c'est-à-dire que c'est effectivement en situant l'œuvre dans une généalogie ou dans une hiérarchie, qu'on va définir son niveau de légitimité. Bon, je passe sur la discussion sur l'indépendance dans la critique, ça nous mènerait trop loin. Bon, vous voyez bien, la question ne se pose pas. Que la critique soit indépendante ou pas, elle peut l'être formellement au niveau de l'œuvre. Le problème, c'est simplement que elle fait partie objectivement d'un système et critique et production sont simplement les deux volets d'un système qui sont indispensables l'un à l'autre. La, critique ne peut pas exister sans la production, et la production ne peut pas exister sans la critique. Alors, une fois qu'on a décrit ces opérations, on voit se dessiner quelque chose de très important. Vous vous souvenez de la distinction, du paradigme établi par Bourdieu, qu'il appelle la distinction, et qui est donc l'établissement d'abord d'un couple et d'une qui distingue entre haute culture et basse culture, pour aller vite, ou plus exactement entre art et ce qui n'est pas de la culture. Ou ce qui n'est pas de l'art, bon, pas tout à fait clair. Et alors, comme c'est une proposition sociologique, la description que fait Bourdieu est une description évidemment absolue, hein, qui n'est pas inscrite dans le temps. Mais en réalité, vous comprenez que le système que je viens de vous décrire est celui qui fabrique la distinction. C'est l'appareil critique qui, par ses fonctions, en particulier de valorisation et de légitimation, mais aussi d'interprétation, crée des antagonismes, produit des hiérarchies, et donc établit la valeur culturelle des produits proposés. Donc là, on vient de voir un point très important. L'opposition entre basse et haute culture n'est pas, c'est ce que j'ai longtemps cru, une succession historique. Il y avait autrefois la culture bourgeoise, et puis est arrivée la culture industrielle qui lui a succédé, et les deux aujourd'hui vivent qu'à un cas dans un monde de tensions pas très simple à gérer. En fait, non. En fait, ces deux formes culturelles naissent au même moment et sont le résultat de l'installation des industries culturelles. C'est la critique, hein, qui produit ce travail de la signification et de la délimitation, donc d'une géographie, d'une création d'une géographie entre bons et mauvais, bonnes œuvres et mauvaises œuvres. Et les deux sont exactement contemporains. Donc, si vous voulez, je suis en train de dire que c'est les industries culturelles qui ont créé l'art. Alors, c'est un raccourci, évidemment. Mais souvenez-vous de cette fameuse formule qu'on m'a... Chaque fois que je suis allé faire une conférence dans une école des beaux-arts, chaque fois, et donc moi, évidemment, je venais exposer un peu de culture industrielle, un peu de web, un peu de choses... chose triviale comme ça, et donc chaque fois, il y avait quelqu'un dans la salle à la fin qui me balançait la fameuse phrase de Godard, que vous connaissez tous, « La culture, c'est la règle, l'art, c'est l'exception. » Voilà, j'ai mis du temps à comprendre que cette phrase, elle est absolument emblématique, elle raconte très bien ce qui s'est passé. Parce que l'exception, c'est que si vous voulez fabriquer une exception, vous avez besoin de la règle. Il n'y a pas d'exception s'il n'y a pas cette opposition entre ce qui est exceptionnel et ce qui est commun, et ce qui est trivial. Donc, comme toujours, Godard vise juste. Donc sa phrase est exactement l'explication de la dynamique créée par les industries culturelles, qui créent simultanément de l'exception et de la règle, de l'art comme exception. Au XVIIe ou au XVIIIe siècle, si vous voulez, l'art, il y a de l'art. Il n'a pas le caractère d'exception qui va prendre à partir du XIXe siècle, hein, qu'on retrouve chez Benjamin, qu'on retrouve tardivement d'ailleurs, hein, plutôt à partir de la deuxième moitié du XIXe. L'art comme exception, c'est une invention, c'est une interprétation qui accompagne, hein, la naissance des industries culturelles, la naissance de voilà, de toutes ces entités, le progrès, la foule, l'industrie, qui sont, que vous retrouvez chez Baudelaire. Hein, voilà. Baudelaire est un exemple absolument typique de l'expression critique du XIXe siècle, qui produit cette opposition tout le temps. C'est-à-dire que pour dire que quelque chose est bien, on va l'associer à l'art, qui est l'exception, et on va l'opposer. Parce que comment vous dites que quelque chose est exceptionnel ? Vous allez l'opposer à une production sérielle de moindre valeur. Donc, si vous voulez, voilà, c'est Flaubert contre Dumas. Opposition paradigmatique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Flaubert a besoin de Dumas, vous comprenez bien. Flaubert sans Dumas, ça marche beaucoup moins bien. Et vraiment, on peut lire les articles, c'est un système. Je parlais hier de mystère, donc est-ce que le mystère est résolu ? Je dirais qu'on comprend mieux aujourd'hui le caractère systémique de l'oblitération de l'industrie culturelle, qui est le résultat de sa propre installation. Donc c'est un résultat apparemment paradoxal, mais voilà, c'est comme ça. L'industrie culturelle comme industrie a produit un discours critique qui a eu pour conséquence de la nier comme production de biens symboliques. C'est ce qui s'est passé. Alors, une des conséquences intéressantes de cette observation, c'est que c'est de remettre le désir au cœur du système et de comprendre que la question des biens symboliques, qui est dans l'explication culturaliste générale liée presque toujours à la question de la signification. Qu'est-ce que ça veut dire, la trame d'œil tout ? Eh bien, je dirais que là, on voit bien que le problème n'est pas tant de créer du sens que de créer du désir, et que la signification, dans cette description, devient tout simplement un outil au service de l'industrie et de ce qu'on pourrait appeler l'industrie de la Traumdeutung. Voilà, je vous remercie de votre attention.